motion. Box back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game.
Rush deep shot.
Get it! What a perfect ending to a historic day.
Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 2 du Two Way Podcast. On se retrouve un mois après l'épisode précédent qui était consacré au All-Star Game. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un peu polémique, un sujet dont les vieux cons aiment bien nous rabâcher les oreilles. Vous savez, les aficionados du « c'était mieux avant ». Alors aujourd'hui, on va vous parler fidélité. Qu'est-ce que la fidélité ? Bonjour Lucas, première question.
Bonjour Vincent, alors je ne suis pas psychologue ni conseiller conjugal, mais pour moi la fidélité c'est quelqu'un qui reste longtemps, en l'occurrence dans sa franchise NBA, comme on peut s'en douter étant fan des Lakers et toi des Spurs, on a quand même de bons exemples. Moi j'ai Kobe par exemple et toi tu as Duncan, Ginobili, qui sont restés très longtemps dans une seule et même franchise. Et bah voilà, la fidélité, la loyauté en NBA, ça peut se résumer très rapidement. C'est rester et en même temps savoir rester dans une seule équipe, que malgré les hauts et les bas, et d'aller au travers des problèmes main dans la main. Putain, c'est beau ce que je dis.
Oh là là, j'ai envie de chialer, c'est beau. Mais ouais, parce que du coup, je pense qu'il y a un terme très intéressant que tu as utilisé, c'est les hauts. Et surtout les bas. On vit une époque où la notion de gagner un titre est devenue obligatoire si on veut avoir un peu de street cred. Et donc, on est un petit peu à une course à la bague. Les gens sont prêts à tout pour ça, et notamment à cette époque des super teams. Est-ce que la notion de fidélité a encore un sens ? Donc, pour ça, on va devoir remonter très loin dans le passé. Et pour ça, je te propose de commencer, Lucas. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1970 ?
Déjà, j'étais pas né, faut le savoir. C'est une info totalement importante. Mais donc du coup, en 1970, on a un événement qui va marquer ensuite la genèse de la NBA qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est la Oscar Robertson Rule. Pour revenir un tout petit peu en arrière avant, Oscar Robertson a été la première figure afro-américaine à être présidente d'un syndicat de joueurs. Merci. Et... En 1970, ils vont prendre une décision qu'on va appeler antitrust contre la NBA.
Alors, à l'époque, je t'arrête. En fait, en 1970, c'est le début du procès. La Oscar Robertson Rule, c'est 6 ans plus tard, parce que le procès va durer 6 ans. C'est en 1976.
Exact. J'allais le 29 avril même. donc du coup, voilà, il y a cette règle qui va être instaurée, qui va prendre plus ou moins de temps, ou en gros, pour ceux qui n'étaient pas au courant, à l'époque, voilà, les propriétaires de franchise avaient quand même la main plus que mise sur leurs joueurs.
Ah, on peut même parler d'un système de servage, hein.
Oui, oui, vraiment. Tu me corriges si je dis des bêtises, mais en gros, cette règle, en gros, élimine l'option ou la réserve qu'il y a dans les clauses de contrat de joueur. Et en gros, ça va plus ou moins amener aux premières free agency de joueurs non restreints par les franchises. Pour faire un peu du français un peu plus global, tu veux partir, tu peux partir. Le choix est tien.
Pour être tout à fait complet, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, un joueur, pour quitter une franchise, même quand son contrat était terminé, il devait avoir l'accord de sa franchise et il devait forcément y avoir une compensation de sa franchise d'origine vers sa nouvelle franchise. Donc, en gros, si le proprio de la franchise ne voulait pas qu'il se casse, il pouvait pas se barrer et il avait aucun recours légal pour le faire. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à l'arrivée de la NBA, à la création de la NBA, il y a eu un début de concurrence. Alors, ce qui fait, c'est qu'on sait très bien que dans une situation de monopole, c'est toujours compliqué pour les employés et surtout pour les consommateurs. Et donc là, avec cette nouvelle ligue émergente, les joueurs NBA ont vu leur salaire augmenter parce que du coup, il y a eu une alternative. Il y a le cas de Rick Barry qui a quitté la NBA pour aller en NBA pour une histoire de grosse thune. Ça devenait plus problématique quand c'était le cas de plus jeunes joueurs, par exemple Spencer Haywood, Moses Malone, qui ont préféré commencer en NBA parce que la NBA était moins contraignante au niveau des règles et surtout au niveau des salaires que la NBA. Ce qui se passe, c'est que la NBA voulait fusionner avec la NBA, donc les deux lignes voulaient fusionner très tôt. Oscar Robertson a entendu parler de ça et en 1970, décide de lancer une procédure contre la NBA, une procédure antitrust, pour que la NBA ne retrouve pas son monopole, en fait, et que les joueurs ne perdent pas leurs acquis, en fait. Et donc, ça aboutira, comme tu l'as dit, 6 ans plus tard, après un procès très long et très coûteux, à le début de la free agency, comme on le connaît aujourd'hui. Bon, c'est pas tout à fait comme on le connaît aujourd'hui, mais en tout cas, ça posera les bases.
Et pour juste pour compléter une dernière chose, il y a beaucoup d'articles à ce sujet et beaucoup viennent en conclusion à expliquer qu'en fait sur le moment ça a été vu comme un conflit évidemment parce que c'est une controverse sociale, mais ça a aussi en fait accéléré le processus, le système vraiment professionnel de cette ligue sportive avec des lois, des bases, des fondations nettement mieux posées pour les joueurs et pour les propriétaires. Et en fait, beaucoup estiment que ça a accéléré dans une direction positive ce qui est devenu la NBA ensuite. Ça aurait pu divaguer, stagner pour peut-être 10, 15 ans. Et en fait, cette règle d'Oscar Robertson a accéléré nettement les choses, rien que sur les salaires, par exemple, les mouvements. Et du coup, l'enjeu sportif en est complètement différent.
C'est ça. Et pour résumer, j'ai cette petite phrase d'Oscar Robertson qui dit au moment de la fameuse signature de Kevin Durant aux Warriors, qui dit « Je pense que la Oscar Robertson Rules va toujours sortir du lot. Il est question de free agency, de meilleures conditions de jeu. C'est la raison pour laquelle Kevin Durant peut aller à Golden State et jouer. » Alors, si on peut résumer, alors pourquoi on est remonté aussi loin? C'est pour vous dire que à l'époque, les joueurs étaient forcés d'être fidèles parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens et que le fait de pouvoir changer d'équipe est un acquis social pour lequel des joueurs ont dû se battre. Par exemple, ici, Oscar Robertson a dû se ruiner pendant 16 ans, mettre à bas sa réputation et avoir une carrière post-joueur un peu plus compliquée que s'il avait été un bon toutou et qu'il était rentré dans le rang.
Et ça montre aussi déjà, à l'époque, peut-être des envies d'aller ailleurs.
C'est ça, ouais, bien sûr. Par exemple, on prend le cas de Rick Barry. Rick Barry, lui, le dit clairement. S'il part des Warriors pour aller aux Hawks, bon, ça fait pas très loin. Il avait juste à traverser la baie, mais c'est typiquement, bon, d'abord parce que son beau-père était propriétaire de la franchise en NBA, mais aussi parce que c'est une question de thunes. Et c'est vrai que les thunes, c'est important.
Clairement, clairement.
On avance beaucoup hein, dans le temps, parce que vous allez voir, on va arriver à la fin des années 80 et au beau milieu des années 90. On va étudier deux pivots qui ont été rivaux, qui se sont joués en finale NCAA et qui se sont joués aussi en finale NBA. Alors, de qui je veux parler?
Alors, tu parles certainement pas de Draymond Green. Tu parles de Hakeem Olajuwon et évidemment Patrick Ewing.
C'est ça. Et pourquoi les cas de Patrick Ewing et Hakeem Olajuwon sont intéressants?
Alors déjà, ils sont étroitement liés par leur passif, puisqu'ils ont joué énormément de temps ensemble, à se confronter. On a une situation où j'avais même envie, tu vois, de mettre David Robinson dedans, parce que ça explique un peu l'argumentaire pour Hakeem Olajuwon derrière. Et en fait, on a deux grands pivots monumentaux, comme tu l'as dit, qui jouent un basket incroyable. Et on a deux cas vraiment similaires et disparates. Ce sont deux joueurs qui ont tout donné pour leur franchise, qui n'ont pas forcément été récompensés de la même manière et qui ont dû faire un petit peu du tête-à-tête avec leur propriétaire.
J'entends souvent, quand on parle de « c'était mieux avant », regardez les joueurs qui font toute leur carrière, qui propulsent, qui restent dans leur franchise jusqu'à l'amener au titre. Et c'est vrai que l'exemple de Olajuwon est un exemple qui est souvent donné. Mais il faut savoir que Olajuwon, s'il avait pu se barrer, il se serait barré. Qu'est-ce qui se passe à l'été 92, Lucas?
Bah, je te laisse parler, t'étais chaud là.
Ah bah je suis chaud alors. Bah, en 92, Hakeem, il y a une histoire de blessure. C'est une histoire de blessure qui ressemble pas mal à ce qu'on a pu connaître récemment entre les Spurs et Kawhi. Donc Hakeem dit qu'il est blessé, la franchise dit « Mais non, t'es pas blessé, tu peux jouer !» Et donc Hakeem dit « Oh mais je vous jure, je suis blessé !» La franchise dit « Mais non, t'es pas blessé !» Et puis voilà, surenchère. Et ce qui se passe, c'est que notre ami Hakeem est un peu vénère comme Lucifer à l'encontre des dirigeants du Houston et demande ouvertement son trade. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un trade qui est trouvé et qui est un sacré what if, parce que ce trade, il est avec les Lakers et en contrepartie, il y a notamment un certain James Worthy. Donc imaginez, Hakeem aurait pu être un Lakers.
Vladé Divac aussi.
Et ce qui se passe, c'est que le transfert, il capote. Je sais plus pourquoi il capote. C'est une histoire de clause ou quelque chose comme ça.
Alors, en fait, ça commence tout le long de la saison régulière. Il y a eu un moment où je crois que l'équipe n'allait pas super bien. Je crois début 92, ils sont quasiment à 50% au niveau du bilan et ils prennent une soufflante. Je crois qu'ils avaient il y a un match où ils ont un avantage de plus de 20 points et ils finissent par perdre contre la pire équipe de la ligue à l'époque. Et du coup, le coach se fait virer. Hakim ne dit rien et en fait il était en train d'essayer de renégocier son contrat à hauteur de 15 millions de dollars l'extension et en fait il voulait pas pas monter au créneau et dire t'as fait une connerie de virer le coach parce que voilà il était en train de renégocier son contrat et à l'époque je crois que t'as David Robinson et Patrick Ewing qui gagnent plus d'argent et en fait il les regarde un peu d'un mauvais œil parce qu'il dit mais attends on produit exactement la même chose et moi je gagne quasiment rien. Et donc, comme tu le dis, il y a cette histoire de blessure qui arrive.
Et il y a aussi une histoire de compétitivité. Hakim joue très tôt les finales NBA. Et ensuite, dès 87, ça part en saucisse. Et ils se font éliminer dès le premier tour tous les ans, en fait.
Mm-hmm. Oui, ils perdent contre Boston, je crois, en 6 matchs.
Ouais, c'est ça. En finale NBA en 86, ouais, c'est ça.
Et en fait, il y a aussi cette notion-là, c'est que le general manager démissionne et va mettre son fils à la place, ce qui a été mal vu de l'œil de la G1, parce qu'en gros, tu deviens GM, mais tu n'as pas vraiment mérité ta place. Tu as été un peu placé là par connexion à l'ancienne. Et en fait, il y a eu beaucoup de conflits dont les gens ne sont pas trop au courant. Et voilà, donc on arrive à cet épisode de blessure où, comme tu l'as expliqué, voilà, Hakim dit qu'il est blessé, personne ne le croit. Au début, ils vont même mettre sur la feuille de marque refuse de jouer au lieu de blesser ou quoi que ce soit. Et on va arriver en fait, ça va escalader bêtement pendant un bon moment où en gros, il va arrêter de parler au front office. Les joueurs tout autour de lui vont prendre son parti en disant « Mais attendez, vous vous rendez pas compte, il a un historique parfait, il jouait souvent blessé, s'il vous dit qu'il est blessé, c'est qu'il est blessé. On s'entraîne avec lui, on voit que c'est pas possible. Je crois que c'est au niveau de la cuisse où il était blessé. » Et c'était pas grand-chose, mais c'était catastrophique. En sortie de presse, le GM dit que ça va lui coûter une blinde d'avoir Hakim qui ne veut pas jouer, que peut-être il va devoir virer des gens dans le staff de la franchise pour devoir balancer les prix, etc. Et en fait, ce qu'on savait pas à l'époque, c'est qu'il essayait aussi de vendre ouvertement la franchise des Rockets. Et du coup, d'avoir Olajuwon qui ne joue pas, ça l'emmerde un petit peu parce que du coup, il perd son meilleur atout vendeur. Et de l'autre côté, il y a un contrat à renégocier, mais lui, ça l'arrange pas parce qu'il a pas envie de débourser de l'argent s'il est en train de vendre. Donc, il y avait énormément de choses à prendre en compte. Et c'est pour montrer à quel point c'était devenu une guéguerre d'ego un peu stupide entre le fils à papa qui avait pris la place et la star de la franchise. Patterson, du coup, le GM, a dit que venez, on ramène un détecteur de mensonges. C'est pour dire à quel point on en était arrivé à des gamineries. Et du coup, voilà, du coup, je pense que je peux le placer maintenant. Il y a eu un voyage en avion où ils ont été forcés d'être assis côte à côte. Il faut savoir que de base, Olajuwon était très très proche du père, du coup, qui était très souvent invité chez lui. Ils adoraient, par exemple, se balader dans les voitures très luxurieuses que le propriétaire avait, etc. Et pendant ce long vol, ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés de se parler parce que ça durait longtemps. Et voilà, tu n'avais pas Nintendo Switch à l'époque pour jouer Metroid, donc il fallait bien faire quelque chose. Et en arrivant, en atterrissant, ils ont dit qu'ils ont réussi à mettre les choses à plat et qu'ils repartaient sur de bonnes bases. Ils ont même dit directement que oui, voilà, il y avait eu un petit bif, mais on reste amis et tout ça s'est calmé et pour le meilleur après.
Ah ouais, parce que le meilleur après, ça veut dire que 2 ans plus tard, ils sont champions et 3 ans plus tard, ils font le back-to-back, quoi.
Ouais, exactement.
Et donc, ça montre que d'une situation qui ressemble fortement à celle de Kawhi, donc imaginez, c'est comme si après tout ce marasme autour de Kawhi, les Spurs et Oncle Denis avaient mis de l'eau dans leur vin et que 3 ans plus tard, les Spurs étaient au retour au titre, quoi.
pour terminer ce chapitre sur Hakim, il y a une très bonne vidéo de la chaîne YouTube Secret Base qui résume tout ça avec voilà beaucoup d'archives, les papiers des journaux de l'époque, donc c'est très intéressant.
Ensuite, pourquoi le mettre en parallèle à Patrick Ewing ? Avec Ewing, on est un peu sur un cas où Pat, il a quand même donné toute sa vie à New York. Comment ça se finit entre après que Ewing ait donné vraiment, mais littéralement son corps, parce que à la fin, en 99, il peut pas jouer les finales tellement qu'il est cassé de partout, mais il était déjà plus ou moins cassé avant parce que il commençait déjà à enchaîner les grosses blessures. Donc on parle d'un gars qui a donné tout son corps, qui a plus ou moins porté deux fois les Knicks en finale NBA, même si pour le coup en 99 c'est pas vrai, pas tant de ça que de son fait. Et comment a été remercié Patrick Ewing pour tous ses efforts ?
Bah, comme un malpropre, en fait. J'ai l'impression que quand on parle de New York, c'est toujours pour ce genre de truc. Et bon, je pense que t'es un peu comme moi. On n'aime pas repenser aux fins de carrière de joueurs comme ça, où tu te dis, putain, en fait, il a pas fini avec le bon maillot.
Là, c'est moi qui peux dire.
Voilà, il n'a pas fini à New York. Donc, je crois que t'avais un quiz qu'on fera peut-être plus tard sur ce sujet, mais c'est vraiment triste. De te dire, c'est le monument, c'est vraiment l'emblème, le cœur, tout ce que tu veux de New York, et ça aurait dû se finir autrement, surtout que quand tu fais le parallèle, par exemple, avec l'ère actuelle, on a des joueurs qui disent ouvertement, j'aimerais bien un petit contrat vraiment qui n'a aucune signification financière, mais juste pour dire, voilà, je termine ma carrière à cet endroit, parce que c'est là où tout a commencé, où j'ai donné mon cœur, etc.
Ce que Paul Pierce a fait, par exemple.
Oui, voilà. Et quand tu vois le cas Ewing, on est clairement absolument pas là-dedans. Et c'est peut-être le joueur qui aurait le plus mérité, en plus d'être à New York.
Le problème avec Ewing, c'est pas tant qu'il soit trade, c'est qu'il soit trade sans être concerté et qu'il soit trade comme un malpropre. Donc, il est trade parce que du coup, on n'en parle pas, mais il est trade aux Sonics, c'est ça ?
Mm-hmm.
Et il me semble qu'il finit à Orlando à la fin, si je dis pas de bêtises.
Ouais, j'ai eu un doute, je crois. J'ai pensé même à Toronto, mais je crois que je dois comprendre.
Non, ça c'est Olajuwon qui finit à Toronto.
Ah bah j'étais prêt, tu vois.
Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il l'apprend, du jour au lendemain, en fait, Ewing, qu'il est trade. Et c'est quand même une question quand on parle de confiance, parce que bon, c'est quand même le sujet de notre podcast, la fidélité, et la base de la fidélité, c'est la confiance. Et quand t'as tout donné à une franchise et que tu te retrouves trade comme un malpropre, en plus contre des assets qui serviront à rien, après la gestion de New York du début des années 2000, c'est sûrement la pire période de l'histoire de la franchise, et c'est pour dire, hein, on parle quand même d'une franchise qui a quand même connu des gros bas. Donc, ce qui se passe avec notre ami Ewing, c'est qu'on se rend compte que la NBA, ça reste un business, et que même si tu donnes tout, tu pourras quand même te faire enfler à la fin, quoi.
Je crois que c'est Shaq qui dit au moment du transfert, on ne peut pas transférer une légende, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est, il incarne New York. Pour moi, Ewing n'est pas le plus grand Knicks de l'histoire, mais en tout cas, c'est sûrement le plus emblématique. Tu penses aux Knicks, tu penses à Ewing, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le visage, c'est tout. C'est
ouais,
l'âme,
c'est le visage de la franchise. Tout. Et le mec est envoyé finir sa carrière. En plus, il lui restait pas longtemps dans les jambes, tu vois. Hein. Il a envoyé finir sa carrière au Sonics et contre des trades contre des assets qui servent à rien en plus. C'est vraiment un manque de respect ultime.
Je crois que t'as juste Glenn Rice, mais bon, à cette époque-là, et Wing contre Glenn Rice. Mais...
Et Glenn Rice qui de mémoire ne reste qu'une saison au Knicks, quoi, ou une demi-saison. Donc, c'est pour dire. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire ce parallèle entre Olajuwon et Ewing, parce qu'on a d'un côté un joueur qui a douté, qui est allé en opposition contre sa franchise, et qui finalement a réussi à mettre de l'eau dans son vin, a réussi à discuter, à mettre les problèmes sur la table, et a finalement allé décrocher un titre. Et de l'autre côté, on a un joueur qui a tout donné aveuglément jusqu'à son corps et s'est fait remercier en étant saqué comme jour au lendemain, sans merci, sans respect dû à son égard, quoi. Donc je trouvais ça assez intéressant.
Et en plus, on parle d'une époque où il n'y a pas de réseaux sociaux, tu vois, dans une autre dimension, le cas Blake Griffin était très intéressant aussi à ce sujet-là. Mm-hmm. Mais là, tu dis vraiment comment il a appris le truc, tu vois, c'est terrible.
Bah oui. Et toi, tu traduis beaucoup de podcasts américains. Et quand DeRozan raconte comment il a appris être trade par Masai Ujiri, alors que trois jours avant, Masai lui disait non, mais écoute, tu seras pas trade. Le mec, il est chez lui, il rentre du ciné, il est dans sa voiture sur le parking d'un fast food et il voit son téléphone qui tremble dans tous les sens et il se dit oh, ça sent peut-être pas bon, quoi.
Vraiment, et c'est ce qu'on dit en général quand on te dit que tu vas pas être trade, tu peux déjà commencer à faire tes valises.
C'est ça. Et je pense que ce point-là est important dans le sens où quand on parle de fidélité, on parle souvent de fidélité de la part d'un joueur, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'ère du player empowerment, où ce sont les joueurs, qui, en tout cas les très gros joueurs, qui ont pas mal d'arguments de leur côté à faire valoir dans la balance avec les franchises. Ce que je veux dire, c'est que un joueur, la fidélité vient autant du joueur que de la franchise, quoi. Et le problème, c'est qu'on a plutôt tendance à reprocher ça au joueur qu'à la franchise. Voilà, c'était le point que je voulais soulever. Et en plus, ce qui est intéressant avec Olajuwon et Ewing, c'est que finalement, les deux sont des légendes reliées à jamais à une franchise, mais ne finiront pas leur carrière dans cette franchise, parce que Olajuwon lui-même partira à Toronto pour essayer d'amener son leadership j'essaie de trouver une formulation
de porter du violet, j'ai pas de
non, mais l'idée était pas si déconnante. Toronto voulait un petit peu entourer Vince, il était là pour mentorer à la base, mais ça va pas très bien se passer au final, déjà parce que Hakim était pété de partout, mais ceci est une autre histoire. Et donc, on se rend compte que dans toutes ces grandes carrières de ces gens qui sont reliés à jamais à une franchise, il y a des moments de doute. Il y a des moments où ça aurait pu finir autrement. Et là, je te lance un peu sur Kobe, parce que Kobe, quand on pense aux Lakers et quand on pense fidélité, c'est vrai que le nom de Kobe vient tout de suite.
Ouais, évidemment. 20 saisons passées aux Lakers. Et en fait, il y a eu deux grosses rumeurs qui étaient du coup Détroit et Chicago. Donc, on parle vraiment de la partie de sa vie, de sa carrière de joueur. Après ce triplé, on est même un peu plus loin en fait, où ça va pas. Il se rend compte que tu peux pas forcément gagner aussi seul que tu l'espérais. Et là, il y a deux choses qui viennent en tête.
Black Mamba, quoi.
Hein?
C'est les débuts du Black Mamba.
Oui, tout à fait.
Après l'affaire de viol, tout ça.
Et c'est à ce moment-là qu'il se dit pourquoi pas rejoindre les Pistons. Donc, ça aurait pu faire une Kevin Durant avant l'heure, rejoindre ceux qui m'ont tapé. Et l'autre évidemment c'était de partir à Chicago vraiment bien dans les empreintes de pas de Michael Jordan.
Ah bon, tu trouves?
Je pense que ça aurait été catastrophique, honnêtement. Pire idée possible, content qu'il ne l'ait pas fait. Et ouais, ça a été les deux plus grosses rumeurs. Ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que c'est vraiment lui qui force, qui tient un peu tout le monde par les parties génitales, disons, pour obtenir une contrepartie ou au moins redevenir compétitif. Et c'est en gros, c'est un peu de la gaminerie. C'est ça où je me barre, tu vois. C'est un caprice. À ce moment-là, c'est vraiment un caprice de star.
Ouais, mais on se rend compte, un peu comme Hakim, dans le cas qu'on a évoqué précédemment, c'est que cette demande de trade fait un peu l'effet d'un électrochoc à la franchise et permettra à la franchise de redevenir compétitive. Sans le caprice de la Juan, ou sans le caprice, si on appelle ça un caprice, mais voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un caprice, mais bref, on se comprend, sans le caprice de Kobe, peut-être qu'il n'y aurait pas eu les titres ensuite.
Ouais, beaucoup, beaucoup estiment aussi qu'il a fait ça justement, voilà, pour secouer un peu le front office, le management, parce qu'au final, il en avait pas tellement envie, mais bon, apparemment, là, on est encore dans de la plus que spéculation. Et moi, du coup, je te renvoie le boomerang, là. Parle-nous un peu de Tim Duncan.
Bah ouais, parce que Tim Duncan, c'est quand même, quand on parle de fidélité, je pense qu'on fait difficilement mieux avec Dirk, c'est vraiment le duo qui a récemment pris sa retraite et qui a jamais associé à une franchise. C'est vrai, bah, c'est l'image de la franchise Tim Duncan, c'est l'image des Spurs. Et bah, en fait, il aurait pu partir très tôt, très tôt. C'est au début des années 2000. Où Orlando commence à vouloir monter une super team. L'idée, c'était d'associer T-Mac à Tim Duncan. Il y a aussi une histoire de Grant Hill aussi, non ?
Non, ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est monter un big three avec Grant Hill, T-Mac, Tim Duncan. Bon, finalement, on se dit que Duncan a bien fait de pas y aller parce que bon, les deux gars niveau régularité physique, bon, voilà quoi. Je suis pas sûr qu'il aurait pu aller au titre. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que Popovich, parce que du coup, l'effectif des Spurs à ce moment-là est pas mal vieillissant, parce qu'il faut savoir qu'en 99, quand Duncan gagne, il gagne quand même avec des papilles, quoi. C'est quasiment
ouais, c'est
le
seul la fin
petit
de cycle.
Jeu. Ah oui, c'est une méga fin de cycle. Hein, c'est pas mal de... Comment ?
C'est l'hospice.
Ouais, clairement, on peut le dire. Hein, c'est vraiment des vieilles gloires hein, en 99. Quelques années ensuite, Robinson est vraiment, vraiment sur le déclin. Autour, il n'y a pas assez de joueurs compétitifs pour espérer quoi que ce soit. Pourtant, à cette époque-là, Duncan est plus ou moins le meilleur joueur de la ligue, ou en tout cas, ça se joue avec Shaq. Il a envie de titre quoi. Duncan c'est un gars qui vit pour être compétitif et donc il va vraiment envisager de partir à Orlando. Il y a deux trucs qui font qu'il part pas à Orlando. Tu les connais ?
Bah alors du coup je voulais te poser la question parce que il y a deux jours j'ai traduit le podcast de Tracy McGrady qui était invité au Players Tribune et il en parle. Donc juste, je vais essayer de ressortir la citation. Donc voilà, il dit, bon après ça vaut ce que ça vaut, c'est Tim qui le raconte, mais il dit, et donc à cette époque, on avait le projet d'Orlando de ramener Grant Hill et Tim Duncan. Ils étaient les premiers joueurs qui ont été concernés, mais apparemment Orlando voulait vraiment à tout prix Tracy McGrady. Et il explique qu'en fait, une des conditions sine qua non pour Tim Duncan, c'était de pouvoir se déplacer avec sa femme dans l'avion.
C'est ça, ouais.
Ce à quoi Doc Rivers a dit « Mais t'y es fou !» Il aurait dit ça exactement avec cet accent. « Mais t'y es fou !» Il a dit jamais de la vie. Et du coup, Duncan a dit « Bah écoute, c'est une des conditions pour que je vienne. Tu ne veux pas, bah voilà, c'est mort.
» Ouais, c'est ça. C'est quand même l'anecdote qui est assez incroyable. Et
comme
l'autre,
quoi, Doc Rivers a du sang sur les mains depuis des années.
Et l'autre truc qui a fait que Duncan n'y est pas allé, c'est que Popovich a pris l'avion le plus vite possible pour aller le voir et puis pour le convaincre de rester.
Et il a bien fait.
Je pense qu'il a trouvé, les bons mots qui font écho. Mais ouais, cette histoire de Doc Rivers, non, désolé, ta femme peut pas monter dans l'avion, genre, mais quelle idée ils ont eue.
Enfin, c'est une dinguerie totale.
Ah, mais ça me fume de rire, hein, cette anecdote.
Alors, du coup, tu penses qu'il laisse les escortes monter avec James Harden dans le jet privé ou pas, là?
Je sais pas. Oh là là. Mais on en arrive un petit peu à, pour moi, l'événement qui va changer la face de la NBA en termes de contrat et surtout en termes de notion de fidélité. Parce que oui, chers auditeurs, si vous nous écoutez encore, on est encore sur la fidélité, même si on divague un peu. Quel est cet événement qui, selon nous, change à jamais la Ligue ?
Bah, pour moi, il y a eu deux moments vraiment marquants. Il y a eu the decision de LeBron James pour aller à Miami, mais du coup, juste avant, ce qui lui a certainement donné un peu l'idée en tête, c'est le Big Three formé à Boston.
Ouais, l'été 2007, quand Danny Ainge ouvre la boîte de Pandore.
Pour aller épauler Paul Pierce qui bataille tant bien que mal, du coup ramène Kevin Garnett et Ray Allen pour former vraiment ce qu'on a Oui, pardon, Wolfram. Pour former ce qui est devenu comme véritable dénomination Big Three, du coup, et saccager la ligue pour la conquête du titre.
C'est ça, parce que je vois souvent sur Twitter des gens qui disent que c'est le premier Big Three d'histoire. Bon, c'est pas vrai, on le sait tous, mais surtout que des Big Three, il y en a dès la création de la NBA. Mais en tout cas, c'est la première super team. Je pense qu'on peut dire comme ça, ou en tout cas la première team à être construite de manière unorthodoxe, je veux dire par les trades et par la free agency. C'est-à-dire que pas sur le modèle du développement par la draft.
Oui, vraiment, c'est comment le mettre dans des bons mots. C'est cette volonté à tout prix de tout de casser. C'est le Real Madrid des Galactiques, tu vois. C'est cette notion-là de on balance tout et vas-y. C'est...
Parce que du coup, quand Danny Ainge décide un petit peu de faire tout exploser et de se dire « vas-y, on fait all-in », le mec, il vient juste d'être nommé GM. Hein. Bon, après, ça fait très longtemps qu'il est dans le staff. Ça fait un truc genre 6-7 ans qu'il est dans le staff et qui met un petit peu ses pions. Tu vois, genre, il fait avancer ses pions dans l'ombre, j'aime bien dire ça. Il a eu prendre des assets par-ci, par-là, tu vois. Je pense que le mec, il avait tout calculé. Moi, je me l'imagine un peu comme Frank Underwood. Je l'imagine bien calculateur comme ça. Mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment où Paul Pierce, lui, en a marre et hésite à rester à Boston. En tout cas, il hésite à prolonger. Et de l'autre côté, t'as Garnett qui a toujours été la cible de Danny Ainge. En fait, Ray Allen était là juste pour attirer Garnett. Hein. Clairement, Danny Ainge voulait Garnett. Et Garnett, et à un moment donné avec les Wolves, où il a presque 30 ans, il peut demander le plus gros contrat de sa carrière. D'ailleurs, lui, ça l'aurait pas gêné de rester aux Wolves. Hein. Et Minnesota, ils se disent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le prolonger pour qu'il soit, je pense qu'on parlait à l'époque du joueur le mieux payé de la ligue, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le prolonger sachant qu'on parle d'un mec qui est en fin de prime et qui a peut-être encore que 2-3 ans à nous gagner, à nous donner le maximum. Et je pense que dans leur tête ils se faisaient un calcul, le GM c'était Kevin McHale, qui se disait je pense que dans 2-3 ans on n'ira pas gagner le titre même avec un Garnett à 100% quoi.
C'est ça, et puis et je crois d'ailleurs qu'on parle, il doit être dans le top 10 des joueurs les mieux payés niveau salaire en carrière. Peut-être ça a bougé un petit peu maintenant avec les gros contrats, mais et t'inquiète, le tiroir est bien plein.
Bah c'est lui qui est plus ou moins, ou en tout cas c'est son histoire de contrat qui est plus ou moins à l'origine du lockout de 1999 quoi. Parce que c'est vrai que Garnett, il fait exploser. Je pense que Garnett, c'est un joueur clé quand on parle de loyauté et de contrat, parce qu'il fait exploser le prix des salaires. Ça va justement jusqu'à une renégociation avec le lockout de 99, qui est vraiment créé par la signature de Garnett. Et ensuite il est le premier, en tout cas le plus gros symbole d'un joueur qui dans son prime va s'allier à d'autres joueurs pour aller gagner un titre. Et là c'est la fin d'innocence, en tout cas, parce que on passe d'une ligue où en tout cas, les projets des GM se faisaient sur le moyen, le long terme, où on avait le temps pour le développement. Là, maintenant, les GM actuels, en tout cas dans les gros marchés, qui se doivent d'être compétitifs tous les ans, on a plus cette notion du développement sur le temps long. À la rigueur, on peut imaginer un plan sur le temps moyen-court, tu vois, genre sur 3-4 ans, mais on verrait plus une équipe galérer pendant plusieurs années avant d'enfin arriver au titre, tu vois, par exemple toutes ces histoires comme les Pistons ou les Bulls de Michael Jordan. Ça n'existerait plus aujourd'hui, tout simplement parce que on a plus le temps court.
Ouais, plus le temps, et c'est pas que maladif en NBA. Tu vois le football, tu regardes même la Formule 1 par exemple, il y a un besoin de changement rapide, d'évolution, de compétitivité, des comptes à rendre, parce que voilà, ça génère énormément d'argent, et voilà, on en reparlera certainement dans un autre podcast, mais tout ce qui est au niveau des contrats, la pullulation des 1+1, des contrats de 1, 2, 3, 4 ans pour arriver au final au fameux seuil des 10 années et de voir après pouvoir taper le contrat maximum, Voilà, tout ça a poussé en avant ce besoin rapide de consommer, d'autant plus l'accélération du fait que les carrières passent vite et avoir un titre NBA importe vraiment à tout le monde. Les joueurs sont matrixés par cette idée de finir sans bague et tout va vite. La NBA, certainement, on est à une ère où la NBA n'a jamais peut-être été aussi compétitive quand tu regardes cette saison régulière-là. Donc, ouais.
Moi, je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur les contrats et je pense que ce serait bien qu'on en parle un petit peu là maintenant. Par rapport aux contrats, alors, faut savoir que pourquoi maintenant on parle d'une ère du 1+1 ou en tout cas du 2+2, des contrats courts. Parle-nous un petit peu des contrats comme ils étaient signés à l'époque, au début de la NBA, ou en tout cas il y a encore 30 ans.
Bah, c'était un engagement à long terme, hein. Même SFR faisait pas des forfaits bloqués comme ça à cette époque, hein. Donc, 5 ans, c'était limite un contrat court à l'époque. On était vraiment plus sur du 7-9 ans, quoi. Même début 2000, tu prends, c'est qui, Rashard Lewis, je crois, qui prend un contrat de 7 ans, il braque la banque au Magic, et c'est pour 7 piges. 7 piges, ah, t'imagines?
Ouais, et 7 ans, c'est considéré court encore à cette époque, hein. Ouais. Moi, j'ai un exemple qui, et pas si loin que ça, tu prends en 93, Larry Johnson signe à l'époque le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, donc à l'époque, hein, entre-temps ça a été battu dès la saison d'après en plus, il signe sur 12 ans à hauteur de 84 millions de dollars. 12 ans!
Il y a des joueurs NBA qui font même pas 12 ans.
Mais oui, ça a aucun sens, hein. En plus, je suis pas sûr que Larry Johnson ait fait 12 ans dans sa carrière, donc c'est pour dire. Ensuite, 2 ans plus tard, c'est au tour de The Morning, donc toujours de Chiller Hornets. Il signe un contrat quand il part pour Miami, c'est pour un contrat de 8 ans parce qu'il voulait un contrat court parce que Charlotte lui proposait 10 ans. Il s'est dit bon bah 8 ans c'est court, t'inquiète. C'est ouais, fou c'est, quoi.
C'est terrible.
Après, il faut savoir que à l'époque, ça avait une, enfin, signer un contrat long était intéressant pour les joueurs parce que le cap n'explosait pas comme ça chaque année, tu vois. Il n'y avait pas une revalorisation exponentielle des salaires comme il peut y avoir d'une année à une autre. Là, si LeBron est dans une stratégie du 1+1 ou du 2+2, c'est parce qu'il sait que il sait qu'il peut prétendre à beaucoup plus dans un an, quoi. Et que s'il s'engage sur 4 ans, bah, fatalement, entre-temps, il y aura des joueurs qui seront mieux payés que lui.
Ouais, c'était toujours ça aussi, cette espèce de casse-tête. Et moi, je voudrais qu'on revienne tout de suite sur le père Danny Ainge, parce qu'on ne va pas le lâcher comme ça. Il a du sang sur les mains encore un peu, là. Il faudrait peut-être qu'on parle du cas inverse, du coup. Un joueur qui a tout donné encore et qui s'est fait piétiner et pisser dessus par Danny Ainge, tu vois de qui je parle?
Ah bah là, tu parles d'un de mes joueurs préférés, hein. Tu parles d'Isaiah Thomas.
The King of the Fourth.
Ah, le King in the Fourth, ouais, bien sûr. Et là, on parle d'un gars qui, en plus de donner sa santé physique, a aussi donné sa santé mentale. Pour une franchise, ouais. Danny Ainge, pour le remercier, il a dit « Ok, bon bah, ciao gros hein. !» ouais. Pour remettre un peu dans le contexte, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte de ces playoffs incroyables? C'est en quelle année? C'est en 2017 qui nous fait des playoffs incroyables, Isaiah?
Donc, saison 2016-2017, Isaiah Thomas, 28 points de moyenne. Déjà un passif de petit vagabond quand même, hein, passé par Sacramento, passé par Phoenix.
Ouais, c'est vraiment un Phoenix qui se révèle.
Ouais, avec cette composition je crois que c'est Dragic, Bledsoe et lui du coup. Et donc à Boston là, il fait une saison magnifique, 28 points de moyenne, c'est le joueur qui marque le plus dans le quatrième quart-temps, je crois qu'il tournait une moyenne de 10.1 points par quatrième quart-temps, ce qui est incroyable. L'équipe de Boston est vraiment vraiment séduisante. C'est une équipe un peu de briques et de brocs, j'ai envie de dire. En plus, avec Brad Stevens à l'époque qui fait un bon boulot. Ils finissent premier de l'Est. Bilan plus que sympathique quand même. 53 victoires, 29 défaites. Et les playoffs sont, en fait, on ne le savait pas encore à l'époque, mais c'est le dernier chapitre d'une histoire d'amour qui finit mal, qui finit tôt. Donc, Isaiah Thomas joue avec une hanche, une cuisse qu'il gêne. Et rajouter à ça une dent pétée en match face aux Washington Wizards, et ça c'est encore rien du tout, puisqu'en fait il va perdre sa sœur pendant la série de playoffs, Et il va nous sortir vraiment une série. Moi, je me souviens, elle me foutait les frissons. Je crois qu'il plante 55 points sur la gueule de John Wall, Bradley Beal. Je crois que c'est, je sais plus que c'est, je me demande si c'est pas un Maurice qui le défend. Et vraiment, c'est mixtape sur mixtape sur mixtape.
Et ce match-là, en plus, il a lieu le jour de l'anniversaire de la petite sœur de CD, quoi. Il a lieu, quelques jours après, parce que du coup, Haïti décide de pas quitter ses coéquipiers, de continuer à jouer malgré le deuil. Donc dites-vous, imaginez déjà, vous
parlez de votre petite sœur. On le voit pleurer sur le banc avant le match avec Bradley Beal qui vient, Avery Bradley qui le prend dans ses bras. Mais vraiment, la force humaine et mentale qu'il a fallu avoir. Et il faut savoir qu'à l'époque, est-ce que tu te rappelles combien valait Isaiah Thomas dans le salary cap des Boston Celtics ?
Oh, bah, pas grand-chose.
Dis-moi un chiffre.
Il était à... Allez, je dis un truc comme ça au hasard. Je me demande s'il était à 5 millions la saison.
Il était à 2 millions.
2 Quel millions. Candidat MVP à 2 millions.
Dwight Howard prend la même. Dwight Howard doit prendre la même pour les Lakers cette année, 2 millions, et donc du coup il était éligible à 177 max. Ouais, les 177 patates. Donc voilà, et bon voilà, j'ai fait mon travail, Vincent, achève-nous.
Bah, et là, Danny Ainge se dit, mais jamais de la vie je vais payer un gars d'1m75 sneakers au pied tout pété, parce que du coup, il savait que sa hanche, ça allait le gêner pour le restant de sa carrière. Alors jamais je vais prendre le risque de payer un gars, donc déjà un meneur de jeu, bon, voilà, et en plus tout petit, et en plus cassé, c'est hors de question que je mette le contrat max dessus, quoi. Et donc, il se met en tête de rechercher une sortie, il cherche pas une sortie pour Haïti, hein, il cherche la meilleure sortie possible pour lui. Et à ce moment-là, il y a à Cleveland, il y a l'eau dans le gaz entre Uncle Drew et le King. Et Uncle Drew demande son départ pour devenir le franchise player d'une équipe. Et là, c'est le moment où Danny Ainge, il fait « Ah, mais mon Dieu, quel timing incroyable !» Et on se retrouve avec ce fameux trade où Kyrie part à Boston et Haïti arrive à Cleveland. Et là, c'est le début de l'enfer pour Haïti, parce que on se souvient de cette équipe Cavaliers 2017-2018.
Derrick Rose, Jay Crowder, Isaiah Thomas, Dwayne Wade qui a fait l'aller-retour. Oh là là,
quel catastrophe. C'est vrai, bon, vraiment une des pires équipes à jamais être allée en finale NBA. Je pense que c'est un des plus grands runs de playoffs de l'histoire de LeBron, parce que vraiment, pour moi, cette équipe, elle est encore plus dégueulasse que celle de 2007. Hein.
Surtout qu'il balance tout le monde en milieu de saison. Je crois qu'après, il ramène genre Channing Frye et Jordan Clarkson.
C'est ça, c'est le soir de la fermeture des trades, il y a un grand ménage à Cleveland, hein. Je pense qu'il change à peu près 40% de l'effectif.
Ouais, c'est ça.
L'effectif total, c'est ce qui est ce qui n'a pas de sens. Et donc là, c'est le début un peu de la fin pour Haïti, jusqu'à la situation dans laquelle on connaît aujourd'hui, où il enchaîne les contrats de deux semaines dans les équipes sans trouver encore un rôle qui lui convient parfaitement, quoi.
Ouais, c'est vraiment au-delà de la performance du basket pur et dur, c'est vraiment tout l'humain qui a été attaqué, et on est vraiment en fait dans l'opposé du joueur qui veut partir. C'est un joueur qui veut rester ouvertement, les fans l'aiment, il est submergé d'amour, etc. Et bon, malheureusement, Danny Ainge, on ne peut que lui donner raison au final, parce que
je sais pas.
Non, sur le plan, tu es manager, tu as un joueur qui a une cuisse qui merdouille. On voit ce que donne Isaiah Thomas à l'heure actuelle et ce qu'il a donné sur les saisons suivantes. Je dis pas que je l'aurais fait, mais il a récupéré un joueur qui a été de passage encore, et encore un de passage derrière, mais au final, ils sont toujours assez compétitifs, quoi.
d'une manière complètement détachée de l'humain, sans affect, a eu raison de faire ce trade. Et ça en est plutôt bien sorti, quand on y pense. Même si, bon, finalement, avec Kyrie, ça n'a pas été le grand amour à Boston. Mais bon, ça, ils ne pouvaient pas le savoir à l'avance. Mais pour aller choper Kyrie à ce moment précis, avec la valeur qu'avait Kyrie, je pense que vraiment, là, pour le coup, ça a été un coup de génie. Mais j'ai du mal de dire un coup de génie quand on parle de détruire mentalement un homme, parce que c'est ce que c'est, tu vois. Et là, on en parle, et donc là, on en vient au sujet qui est le sujet de fond de notre podcast aujourd'hui, qui est la fidélité. Comment veux-tu être fidèle après ça? Comment veux-tu faire confiance à une organisation tu vois qu'un gars qui a donné sa santé mentale et physique à cette organisation a été jeté comme un malpropre? Comment tu veux faire? Du coup, moi, je comprends les joueurs, tu vois.
Bah, du coup, Vincent, moi, je voulais rapidement qu'on discute maintenant. On est à peu près à l'ère actuelle. On a quand même dépeint un portrait qui se veut pas négatif, mais on essaye de mettre en avant quelque chose qui au final a déjà existé, qui existe et qui probablement existera. Mais sur une note un peu plus positive, quels sont les joueurs, selon toi, qui pourraient encore passer toute leur carrière, et je parle pas de 5 ou 7 ans, mais vraiment 10, 15 ans dans la même franchise, qui pour toi incarne le mieux à l'ère actuelle les nouveaux Tim Duncan, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki?
Là, par exemple, je n'avancerai pas pour des cas comme Ja Morant ou des joueurs ou Trae Young, tu vois, des joueurs qui sont encore très jeunes et on peut pas encore le dire. Pour moi, il y a clairement deux candidats à cette idée de rester fidèle à une franchise toute sa vie. Je pense bien sûr à Damian Lillard, qui est le cas un peu le plus compliqué parce que on ne sait pas trop. Il a quand même un moment charnière de sa carrière, même si lui semble vouloir rester sur Portland. On part quand même sur de la reconstruction. Est-ce que Lillard a encore 3 ans de prime devant lui pour attendre que l'équipe redevienne compétitive? Ça, c'est autre chose. Et ensuite, je partirai bien sûr sur Giannis, qui a vraiment approuvé son amour pour les Bucks. Moi, je sais pas si tu te souviens, sorti de la bulle, quand les Bucks se font taper, mais vraiment sévèrement par Miami, que Bud se fait out-coach de ouf par Spoelstra. On commence déjà à avoir des rumeurs comme quoi Giannis était la cible numéro 1 du Heat. Papy Riley, il avait commencé déjà à mettre ses plans machiavéliques et tout. Tout était pensé pour que ça se fasse comme ça. Et Giannis, il a quand même prolongé. Alors que quand même, je veux dire, comparé à d'autres joueurs, tu vois, genre, je sais pas, je pense à un Harden où il a quand même échoué pas mal de fois en playoff. Et souvent de fois, les Bucks ont été très décevants. Il a quand même prolongé et résultat, il prolonge et il est champion. Et moi, c'est ce qui me fait dire que maintenant qu'il a été champion, il n'est pas dans une course aux bagues. Et je pense que comme Dirk, il restera sûrement toute sa carrière. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite du côté de Milwaukee. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah, moi, je ne m'avance pas dans le temps non plus. Mais par exemple, un Ja Morant, vu le caractère un peu du joueur, la fac où il a joué... l'identité globale des Memphis Grizzlies, j'ai quand même envie d'y croire un petit peu, mais c'est vraiment là de la pure spéculation de fan. Sinon, moi aussi, évidemment, on a Damian Lillard qui est un exemple phare, parce que ça fait quand même deux ans et demi que ça tape sévère sur sa tête. On a eu quand même des rumeurs qui ont été très prononcées cet été pendant après la saison NBA et les JO de Tokyo, où il y a même eu des insiders très très proches et très référencés du côté de Portland qui disaient que c'était acté, et il est monté au créneau sur les réseaux sociaux en disant non, encore une fois vous racontez de la merde, je reste, et là il envoie encore un message clair. Il y a Bradley Beal aussi, mais je pense que le cas là il est un peu compliqué à discuter, donc je vais me recentrer sur Giannis. Je me rappelle très bien du traitement qu'il a eu après s'être fait gifler vraiment par Miami. Je pense que même à ce moment-là, j'étais le premier à me dire bah c'est fini, ça sentait vraiment pas bon.
Moi, dans la vidéo du crossover, je me souviens qu'on avait fait une vidéo avec le crosso, j'avais annoncé, pour moi c'était sûr que Giannis allait aller à Miami, hein. Franchement, j'y croyais dur comme fer.
Ouais, d'autant plus que voilà, Pat Riley quand même, ça fait un moment qu'il le leurre, l'endroit est peut très bien fitter avec le joueur, l'identité, etc. Ils avaient la flexibilité salariale, ce que Milwaukee n'avait pas forcément parce qu'ils avaient déjà le contrat de Chris Middleton et ils avaient des gros contrats qui prenaient de la place. Mais voilà, pour refaire un peu la genèse, quand même, Giannis, il est parti de rien à Milwaukee. Il a connu des dérouillés. Je crois qu'il y avait eu un match de playoff où Chicago, il leur en met 52 dans les dents. Donc, il y avait des trucs vraiment compliqués. Il a été élu MIP, il a été élu MVP deux fois, Defensive Player of the Year. T'arrives au titre, c'est bon, ça y est. En fait, l'accomplissement est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à rester de manière pérenne dans cette franchise. Mais au-delà de tout ça, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Giannis, c'est il est vraiment aux antipodes de cette ère ami-ami qu'on a actuellement à NBA. Il y avait un article en 2018 de The Athletic qui rapportait que lui, il en avait rien à faire de bouger, que ça l'intéressait pas. Qu'il était souvent invité l'été, par exemple, par Kevin Durant, LeBron James. Il y avait eu un gros foyer de joueurs qui s'étaient réunis. Il y avait James Harden, Carmelo Anthony aussi, qui lui avait dit, viens, écoute, nous, on bosse cet été ensemble à New York. Viens t'entraîner. On va s'entraîner, on fait des pick-up games et tout.
C'est fou, lui, quand j'entends Melo et Harden dans la même phrase, j'ai du mal à les imaginer bosser l'été.
Avec la capuche.
Bien sûr.
Et il a dit non, franchement, moi, non, merci, ça me va bien. Et après, il l'a rapporté aux journalistes. Du coup, il a dit, mais moi, je peux pas bosser pendant quelques mois, pendant l'été, avec des gars que je vais devoir tabasser en saison régulière et en play-off. Plus récemment, il a refusé de participer à Space Jam, ce qui en soi est une bonne idée sur le plan cinématique, je pense. Et on a aussi le président des Bucks qui s'appelle Peter Finin, et si je prononce bien, il a dit d'avoir le MVP de la ligue qui te dit en face, je veux être là, c'est ici que je veux vivre. Ça a été une marque d'engagement incroyable pour la ville, et c'était évidemment du soulagement, beaucoup de bonheur. Et
je pense que c'est important de dire aussi que Giannis, c'est un gars qui est très très investi dans tout ce qui est humanitaire dans la ville. Tu sais, c'est un truc qu'on n'a pas trop en Europe, mais aux États-Unis, ils adorent ça. Tu sais, le citizenship, les caritatifs, être investi dans la communauté, tu vois, genre tous ces bails-là. Et en plus, il y a un autre détail, et pas des moindres, c'est que le papa de Giannis est enterré à Milwaukee. Et ça, je me souviens que c'était un des trucs qui a joué sur le fait qu'il a prolongé après la défaite contre le Heat, quoi.
Et humainement parlant, quand t'as passé une partie de ta vie à fuir, à arriver en Grèce, à vendre des fausses Ray-Ban à la sauvette dans les rues d'Athènes, je pense qu'humainement, voilà, on est clairement pas sur, on est sur un joueur vraiment à part. Donc moi je lui souhaite tout le bonheur du monde et qu'il devienne un grand symbole de Milwaukee. Et du coup, je fais une petite transition, si tu me permets. C'est le cas non, Malcolm Brogdon. Ah, pardon. C'est le cas Malcolm Brogdon qui, du coup, en fait, je voulais discuter un petit peu de cet aspect-là. C'est aussi, des fois, on oublie que le joueur ne choisit pas forcément où est-ce qu'il arrive, par la draft, par un transfert, etc. Et il y a des cas où, en fait, les joueurs sont heureux de partir. On en a discuté ensemble en privé. On valorise pas parfois assez la bonification d'un changement d'environnement, etc. Et pour le cas Malcolm Brogdon, il y avait énormément de choses, notamment du salarial, du financier, qui faisait que l'histoire devait se terminer. Mais il y a aussi quelque chose qui a été rapporté, c'est que Malcolm Brogdon se sentait très mal, par exemple, dans la ville de Milwaukee, qui est connue pour être très arriérée sur le plan social, sur le plan racial. Il faut savoir qu'il s'appelle Malcolm parce que les parents étaient fans de Malcolm X et ils lui ont toujours répété dans sa jeunesse que si tu n'avais pas d'éducation, tu n'avais pas de futur. Et dans une interview qui a été relayée par The Guardian, il a vraiment dressé un portrait de la ville qui disait que voilà, le niveau de ségrégation, le manque de progrès est réel à Milwaukee. J'avais entendu des choses à propos de la ville avant de venir, mais honnêtement, c'est la ville la plus arriérée, la plus raciste que j'ai connue. Je n'ai jamais vécu dans une ville aussi aussi basse, et il y a des choses qui doivent être changées rapidement. Et quand lui, du coup, est parti à Indiana...
Ça me fait penser, excuse-moi de te couper, ça me fait penser très clairement aux raisons qui ont poussé Karim à partir à Los Angeles.
Et voilà, et en fait, c'est aussi ça qu'on ne pense pas assez souvent, c'est que bah, des fois, ça leur fait du bien, en fait. Ils se sont dit, bah, moi, j'ai pas envie d'être là, hein, clairement.
Et du bien coup, sûr, ça m'a. Une rupture n'est pas toujours négative, parce qu'on parle de la fidélité comme quoi la fidélité, il faut faire une seule franchise dans sa vie, parce que sinon, ça serait le grand mal, on serait vraiment un mercenaire. Mais en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, en fait. J'ai envie de te dire, si ton premier amour, bah, ça se passe bien, puis au bout d'un moment, bah, ça devient nocif pour tous les deux, bah, autant partir et puis refaire ta vie, quoi.
Et du coup, voilà. J'avais un petit quiz pour toi, je sais pas si t'as envie de le faire maintenant ou...
Vas-y, je suis chaud.
Alors
amusez-vous, cher auditeur, à reproduire ça chez vous.
Un indice pour vous, sur votre écran. Alors, Vincent...
Ok, Cyril Ferraud.
saurais-tu me dire combien de joueurs ont passé toute leur carrière en NBA avec la seule... avec une seule et même franchise.
Le critère, de joueurs qui ont plus de 10 ans de carrière.
Voilà, ça. Le critère, c'est 10 saisons NBA minimum.
Bah, je saurais pas te dire, mais je peux essayer d'en citer déjà.
Alors, il y en a eu 50.
Il y en a eu 50. Oh, il y en a eu 50. J'aurais pas les 50.
dis-moi tranquillement, le temps que je vérifie la liste. Mais bon, il y en a quelques-uns qui sont évidemment très obvious.
Ok, donc je vais commencer par les grosses franchises, donc plus de 10 ans, hein. Donc chez les Lakers, si on se dit plus de 10 ans, Kuba, Magic, Kobe, Worthy, Jerry West bien sûr, Elgin Baylor, donc ça pour les Lakers, ça j'en ai combien, j'en ai 5 ?
4. Tu m'as dit Bryant Johnson, tu m'as dit West et tu m'as dit Baylor.
Ok, d'accord. Donc là, on passe du côté des Celtics.
Tu m'as dit Worthy aussi, donc 5.
Ah oui, Worthy 5. Du côté des Celtics, donc il y a Bob Cousy. Ah non, Bob Cousy, il joue à un moment, il joue quelques matchs, il joue 3-4 matchs au Rochester Royal, si je dis si je dis pas de la merde. Du coup, Bob Cousy n'y est pas. Ben Sherman, il y est ?
Sherman, je regarde. Non !
Ah, il n'a pas 10 ans ?
Non.
Il doit avoir 9 ans de NBA, 8-9 ans. Du coup, Bilou, hein ?
Bill Russell, en effet. Petit joueur sympathique, je recommande.
Bill Russell, 13 saisons, tous au Celtics. Du coup... dans cette période-là, okay, bah, John Havlicek, c'est sûr qu'il les a.
Mm-hmm, 16 saisons.
Sam Jones, il a tout fait au Celtics.
Ouais, 12 saisons, de 57 à 69.
Dave Cowens a tout au Celtics ou pas ?
Non.
Ah oui, il a une fin de carrière sous un autre maillot, Dave Cowens. Je sais plus où d'ailleurs. Qui d'autre au Celtics?
Dave Cowens, il fait une dernière saison à Milwaukee, il me semble.
Ah oui, bien vu. Larry Bird a tout au Celtics.
Oui.
Kevin McHale a tout au Celtics.
Oui, 13 saisons aussi.
Robert Parrish n'a pas tout au Celtics. lui, il finit aux Bulls, je crois.
Oui.
Je pense que c'est tout ce que j'ai du côté des Celtics. Si on va du côté des Knicks, Willis Reed a tout aux Celtics, a tout aux Knicks.
Oui, 10 saisons tout pile.
Ah oui, quand même. Et ensuite, j'ai du mal à trouver quelqu'un aux Knicks qui a toute sa carrière. Après, je pense qu'il doit y avoir des gars comme Harry DeHorst, Galatine ou des gars comme ça, mais je suis pas sûr qu'ils ont 10 ans de NBA.
Alors, avec Willis Reed, il y en a deux. Je peux t'aider un peu. On a un guard forward. Et on a quand même un gars qui a fait 15 années. Mais attends, non, j'ai une bêtise. Non, voilà, on a juste un deuxième gars, guard forward. Année des fin des années 60 jusqu'à fin des années 70.
Un War Forward, là comme ça, ça me vient pas. Peut-être. Il était plus Power Forward. Je pensais à Phil Jax, mais Phil Jax était plus ailier fort.
Et il a fait 3 mandats de sénateur du New Jersey. Bradley.
Ouais, c'est Bill Bradley. Voilà, merci. Ouais, effectivement. Ouais, non, mais je l'aurais pas retrouvé, Bill Bradley. Ensuite, je vais essayer d'accélérer. Donc, si on va chez les Spurs, du coup, t'as Robinson, t'as Tim Duncan et t'as Manu Ginobili.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui pourrait me venir là dans les autres franchises?
Bah, essaye de trouver des joueurs actuels peut-être.
Stockton a tout fait dans
19 saisons
dans l'Utah. Ouais. Qui c'est qu'il y a d'autres? Ah ouais, ça c'est quand même assez difficile parce que du coup tu vas sur les autres franchises, c'est vrai que, et c'est marrant parce que là du coup il y a que les gros marchés qui me viennent en tête. Bon, je ne parlais pas de ça, donc non. Mais...
Je peux t'aider peut-être sur le top du top si tu veux un petit peu.
Ouais, il y a Dirk. Bah ouais, il y a Dirk, bah, bien oui, sûr.
Donc tu m'as dit Dirk, tu m'as dit Kobe, tu m'as dit Duncan, tu m'as dit Stockton. 19 saisons NBA, il joue encore, mais bon, pas tellement.
Ah.
Il est du côté de South Beach.
Il est du côté de South Beach. Udo Haslem.
Ouais.
Ah, Udo Haslem, 19... il n'a pas fait de pige ailleurs. Très bien. Ok, d'accord.
Ça fait 19 saisons. Ouais.
Ok. L'assistant coach le mieux payé de NBA.
C'est ça. On a un petit gars rachétique qui mettait pas mal de tirs en cloche de loin.
Reggie.
Ouais, Reggie Miller, 18 saisons, de 87 à 2005. Manu, tu m'as dit, Abishai, tu m'as dit. On a un joueur qui a fait sous les Syracuse Nationals et
Philadelphia. Ah, Dolchez. Dolchez.
Saisons. Un autre gars, pareil, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est décédé, il me semble, il n'y a pas longtemps. Légende un peu oubliée, je trouve. Il est décédé, attends que je ne dis pas de bêtises. Il est décédé en 2018, ouais.
Ok.
Shooting guard, tu l'as ou pas? Non.
Excuse-moi, j'étais très mal entendu.
Ah, pardon, c'était. Bah, du coup, je t'ai donné la réponse, c'était
Al Greer. Ah, c'est Al Greer. Ah, ouais, je suis bête. Quand j'ai pensé aux Sixers, j'aurais pu penser à Al Greer. Bah, oui, bien sûr.
Là, ensuite, tu m'as dit. Donc, Elgin Baylor, ouais, c'est bon. Jay West, c'est bon. Ah, il y en a un quand même, là. Une légende. Une légende de OKC.
Légende de OKC.
Bon, il y a un peu de triche parce qu'il a fait ses débuts au Supersonics, mais du coup, c'est devenu OKC derrière.
Ah merde, comment il s'appelle? Je le retrouverai pas.
La poignée de main préférée de Steven Adams, Nick Collison.
Ouais, Nick Collison, bah, bien sûr. Et à chaque fois, son nom, il m'échappe. Ouais, bien sûr, Nick Collison.
Allez, je vais essayer de te guider un petit peu sur 2-3 qui restent. On a une grosse légende de Washington.
Unseld a fait toute sa carrière.
Ouais, il a commencé à Baltimore, Capital, et ensuite Washington Bulls, mais ça fait 13 saisons au total.
J'étais pas sûr qu'il ait 10 saisons Unseld, tu vois.
Ouais. On a deux légendes des Pistons.
Ah bah Joe Dumars.
Mm-hmm.
Et puis Isaiah.
Ouais. Tu saurais me dire lequel des deux a fait une plus grosse carrière aux Pistons?
Ah bah c'est du mars.
Ouais, juste une saison de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Parce que IT doit mettre un terme à sa carrière à cause d'une blessure. Et après, il y a une période de transition pendant laquelle c'est du mars qui mentore un petit peu le jeune Grant Hill. Et en plus, du mars, si tu ajoutes les années dans lesquelles il est GM, il est resté plus de 30 ans facilement aux Pistons, quoi.
Mm-hmm. On a une toute petite légende des Rockets.
Toute petite légende des Rockets.
Ouais, 1m75. Kelvin Murphy. Et après, dans des mentions que tu as oubliées un petit peu, que tu m'aurais pu trouver, Bob Petit, je ne sais plus si tu me l'as dit. Cooper aussi, Michael Cooper, du coup. On a Nate McMillan, qui a fait toute sa carrière au Supersonics.
Ah, c'est vrai que
Julius Erving.
Michael Cooper, j'aurais pu le retrouver quand même.
Julius Erving, Paul Arizin.
Qu'est-ce que tu racontes, Julius, il n'a pas fait toute sa carrière il a pas fait toute sa carrière aux Sixers?
Ouais, bah en gros, ils ont mis un astérix parce qu'ils ont considéré la fusion.
Ah, ok, ils prennent pas la NBA.
Ils ont été gentils sur 2-3 trucs. Et pour les cas les plus récents, bah, on a Steph Curry avec 13 saisons, Bradley Beal, Damien Lillard et.
Bah, tiens, on en a pas parlé de Curry parmi les gars qui pourraient potentiellement faire tout ça toute leur carrière. Je pense que lui, c'est quand même un bon client, Curry.
Ah oui, bah, je pense que c'est même bien plié vu l'extension qu'il a pris. Et je vois vraiment
Je me coupe un doigt s'il n'y a pas au moins un des trois qui finit pas. Enfin, je parle de Clay, Curry et Draymond qui ne finissent pas leur carrière du côté de la baie. Hein, tu vois, pour moi, il y a au moins un des trois qui va finir là-bas. C'est pas possible sinon.
Ouais, moi, je pense même que ils feront l'effort de les garder. C'est tellement des monuments de l'histoire actuelle de Golden State, je ne le vois pas autrement pour être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 saisons pour Klay Thompson.
Ah ouais, ouais, ouais.
Donc, après, qu'est-ce qu'on entend, les deux blessures là, 2019 à 2021, ça pique un peu quoi.
Ouais, je pense pas qu'il y en aura beaucoup plus des saisons.
Ouais.
Bon, filer les petits jeux pour revenir un petit peu à notre sujet et conclure. Moi, ce que je veux dire, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu éparpillé tout le long du podcast, mais bon, vous l'aurez compris, chers auditeurs, que c'est notre marque de fabrique. Ce que je veux dire au niveau de la fidélité, c'est que il faut pas qu'on idéalise ça, tu vois. Genre il y a des gens qui s'en sont très bien sortis, comme Moses Malone, et qui ont fait plein de franchises différentes. Bien sûr, nous, on aime les belles histoires d'amour qui durent longtemps. Après, si c'est pas la bonne, il y a rien de mal à casser et aller voir ailleurs, tu vois. je m'étais promis de pas faire de métaphore amoureuse, mais c'est plus fort que moi. Et je pense que aussi c'est important de se rendre compte que le droit de partir pour un joueur, c'est un droit, tu vois. C'est quelque chose qui a été acquis après des luttes. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Si quelqu'un n'est pas bien à un endroit, c'est normal qu'il y parte. Tu vois, Kawhi ne sentait pas forcément bien aux Spurs, avait envie d'aller être à Los Angeles pour sa santé mentale. Eh bien, je trouve ça pas déconnant qu'il soit parti finalement. Toi, t'en penses quoi ?
Moi, je n'ai aucun problème avec le mouvement. Ça crée toujours de la narrative, ça relance toujours. Moi, je suis partisan de cette idée, comme toi aussi. Et comme je l'ai évoqué rapidement dans un podcast, des fois, ça peut te faire du bien de bouger, de te renouveler. Voilà, l'exemple de DeMar DeRozan au Chicago Bulls cette année, on le voyait déjà rincer à faire 15 minutes sur le banc des Lakers. Et regarde la saison qu'il nous fait. Moi, je suis partisan de... Je suis comme toi. Faites ce que vous voulez, mais faites-le dans les règles, dans le respect, tu vois. C'est pas parce qu'il y a du pognon en jeu qu'il faut devenir un troufion, un peu. Que ce soit des deux côtés, tu vois. Par exemple, Blake Griffin, quand il se fait jarter comme une vieille chaussette sale, après avoir signé une prolongation de contrat, et il apprend sur Twitter qu'il part à Détroit, pas ouf. Moi, je me souviens au tout début, le beef Jimmy Butler à Minnesota, j'étais vraiment pas fan. Et puis quand tu revois tous les aimants en place, tu dis ouais, bon, bah ça se comprend quoi.
Mais en fait, je pense que c'est comme dans tout, tu vois, il y a l'art et la manière d'avoir une séparation. Pour moi, un joueur qui part en faisant l'effort de faire un sign and trade de manière à ce qu'il y ait une contrepartie, tu vois, à son départ, ça, je trouve ça complètement louable, tu vois, et je trouve que c'est une bonne manière de partir. Pareil, une franchise qui se dit à son joueur, bon écoute, là on a tout fait, on va tout faire pour t'envoyer dans une franchise qui te correspond, qui est dans ta shortlist, où tu pourras jouer le titre, ou en tout cas essayer de le jouer. Ça, je trouve que c'est une bonne manière de récompenser la fidélité. Il faut pas que la fidélité, ça soit, on passe toute notre carrière ensemble, quitte à perdre tous les deux, tu vois. Il faut que ça soit, savoir aussi être fidèle, c'est savoir aussi se quitter au bon moment, tu vois. Et je pense que il y a des exemples et les contre-exemples qu'on a donnés, comme Isaiah Thomas et Danny Ainge, ça a fait du mal un petit peu à ce mood de fidélité, et ça a fini de renforcer cette image comme laquelle la NBA n'est qu'un business. Moi, je ne pense pas que la NBA ne soit qu'un business, tu vois. Si ça n'était qu'un business, des mecs comme Oscar Robertson n'auraient pas mis leur carrière en jeu pour leur économie en jeu même, leur vie tout court en jeu pour risquer, pour acquérir de nouveaux droits, alors que Oscar Robertson n'en avait pas besoin. Tu vois, quand il y a le Oscar Robertson Rules, il est déjà à la retraite. Moi, je pense que la NBA, c'est plus qu'un business. Et la fidélité, ça doit être important. Et ce qui est plus important que la fidélité, c'est la confiance. Et il faut restaurer ce lien de confiance entre les franchises et les joueurs.
C'est du vivre ensemble. L'exemple parfait, par exemple, instant auto promo, la traduction de lettre que j'ai fait de CJ McCollum, il y a eu énormément de bruit autour, mais lui-même l'a dit. Il a dit, bah voilà, on s'est posé, on a compris que c'était la fin d'un chapitre, on était triste. Mais Portland a tout fait pour que j'atterrisse où je voulais. Il a atterri à New Orleans et il est heureux. Et je pense que c'est primordial. Après, on n'a pas toujours toutes les histoires parce que ça reste des choses en interne et qui sont loin de nous. Et tu rajoutes au fait que des fois, voilà, les insiders quand même sont bien immiscés dans ces histoires pour mettre un peu le bazar. Mais évidemment, c'est dur de cohabiter avec des personnalités fortes qui valent de l'argent, avec des enjeux, etc. Mais le point d'orgue, moi, c'est rester professionnel, tu vois.
Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et comme d'hab, on a pris des petits chemins, on s'est un peu perdu en route, mais voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié. On se dit.
Mais bien sûr qu'ils sont encore là.
Ah bah bien sûr, évidemment. On se dit rendez-vous à la prochaine avec un sujet peut-être un peu moins dense la prochaine fois. On essaiera de se faire un truc plus chill. Lucas, je te donne le mot de la fin et je vous souhaite au revoir à tous les téléspectateurs et puis à la prochaine. À toi, Lucas.
Aimez-vous.
Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Blocked by James! LeBron James with the rejection! Box! Back out to Allen! His three-pointer! Bang! Tie game!
Rush deep shot!